radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off. Je pense que le rock'n'roll est un peu contraire à la morale biologique qui a une certaine amoralité à se comporter comme font tous ces jeunes gens, à la fois en bête et en enfant. Il me paraît que ces crises d'hystérie collective comportent un certain infantilisme, une sorte de libération à la fois d'instincts puérils et d'instincts d'animaux.
C'est bien le soir dans l'ivresse et l'énergie et la tension du concert. Le lendemain, tu pleures un peu. Tu restes jeune le soir, c'est le lendemain que tu te réveilles et que t'es vieux. Et vu qu'avant, on était déjà vieux, ben ça fait longtemps qu'on se réveille vieux.
On se réveille vieux plus longtemps.
Mais sinon, non, le plaisir reste intact et dans notre tête, on a encore 15 ans. C'est juste notre corps qui nous rappelle de temps en temps qu'on en a bientôt 50. Pour certains et plus pour d'autres. Qu'est-ce que c'est bien d'être vieux? On ne sait pas, on n'a pas vu le temps passer. Peut-être qu'un jour on réalisera, mais on n'a pas vu le temps passer, donc on ne sait pas si on est vieux.
Salut les amis, c'est JBD, bienvenue à vous dans cette spéciale Burning Heads, ouverte à l'instant avec Thomas et JB. Les Burning, papa punk rock avec un parcours de plus de 30 années de musique, et ça continue. Pour fêter plus de 3 décennies de Burning, vous voilà en juin 2017, 32e édition d'Au quart de tour, organisée par Radio Béton, radio et festival créé à Tours en 1986, et un an après, en 87, chez les voisins d'Orléans, naissaient donc les Burning Heads, groupe de punk rock, mais pas seulement, puisqu'on va aussi beaucoup parler hardcore, reggae, techno et autres métissages. Burning Heads au festival Au quart de tour, live. Vous allez donc aujourd'hui survoler plus de 30 années d'histoire des Burning Heads, histoire qui est d'ailleurs récemment passée par Fukushima au Japon. On va en parler tout à l'heure avec Thomas, batteur. Salut Thomas.
Salut, salut.
JB à la basse. Salut JB.
Bonjour les gens.
Et Mikis à la guitare.
Salut les gens qui nous écoutent.
Et Pierre, autre guitare et chant, qui comme la dernière fois, il y a 10 ans, est parti se balader au lieu de participer à l'interview, laissant aux autres le soin de causer, ce qu'ils font d'ailleurs très bien. Cette émission a donc lieu en plein festival au quart. Vous voilà dans un concert de punk rocker japonais. Des japonais avec lesquels les Burning sont à un moment montés sur scène pour faire les chœurs d'un morceau, en japonais. Pas à dire, mais je sais pas pourquoi, mais je trouve ça particulièrement rigolo de voir un groupe de punk rock japonais qui saute partout en envoyant le pâté. Peut-être à cause du contraste entre punk rock et ce qu'on pourrait imaginer des japonais. Qu'est-ce qu'on vient de voir là sur scène? C'était quoi ce groupe japonais?
Ah bah non, on vient de voir The Skippers, groupe d'Osaka, petit punk rocker mélodique qui se prennent pas la tête, qui font ça depuis 15 ans et qu'on voit le boulet dans toutes les conditions et qui ont le sourire jusqu'aux oreilles pendant qu'ils jouent. La classe.
Thomas, comment ça se fait qu'on vous a vu monter sur scène pour faire les chœurs sur une chanson?
Mais en fait, on a rencontré ces gars-là lors de notre tournée japonaise. On a fait deux concerts avec eux sur les 8 dates au Japon qu'on a fait. Et grâce à l'action pour sensibiliser le monde aux victimes de Fukushima, on a eu la chance donc de jouer avec eux au Japon. Il y a une sorte de match retour qui se fait ici. Et lorsque les Skippers nous ont dit qu'ils étaient d'accord pour venir jouer avec nous en France, on était ravis. Et Rico, de Tours, a monté une petite tournée entre Pays Basque, Espagnol, Espagne et France. Et donc voilà, ça fait déjà 6 ou 7 concerts qu'on fait avec eux, en plus des deux qu'on avait partagés avec eux au Japon. Donc voilà, si on ne connaît pas tous leurs refrains en japonais, mais celui-là est plutôt simple. Donc on s'est dit avec Mickey qu'on allait peut-être pousser la chansonnette avec eux, par solidarité.
D'aller au Japon suite à Fukushima.
Quand la vague a rasé toute une partie de l'île, toute la vie s'est arrêtée, les villes ont été complètement ravagées et les premières intentions de reconstruction ont été faites pour les habitants, pour la vie, mais à un moment il y a des gens qui ont dit que la vie culturelle devait elle aussi se reconstruire et donc il y a tout un mouvement, un regroupement d'artistes, d'acteurs de la scène rock et musicale, de patrons de salles qui se sont associés pour faire une campagne de sensibilisation pour reconstruire les lieux de culture dans cette zone ravagée. Et donc là, un jour, on nous a proposé en France d'être un peu ambassadeur de ce truc-là et de tourner de faire quelques dates avec des Japonais. Et voilà, on était content de faire ça parce qu'on était sensible à la cause et parce qu'on aime bien partager des choses avec des groupes un peu exotiques. Et puis, il y a eu une sorte de match retour et ils nous ont bien voulu de nous au Japon. Toujours dans le cadre de cette campagne de sensibilisation. Et là, c'est à nouveau une invasion japonaise sur le continent européen, encore une fois pour sensibiliser les gens. Et nous, on est contents de participer à la cause parce que la cause est honorable. Et on est aussi surtout très contents de partager la scène avec des groupes avec qui on n'a pas l'occasion de croiser le fer souvent. Et voilà, quand c'est exotique, et comme dit Mikis, quand c'est fait avec la classe, le sourire, la bonne humeur et que ça envoie du bois, on est encore plus contents.
Je me suis rendu compte qu'à Fukushima, il y a eu en fait des dizaines de milliers de morts.
Juste pour l'anecdote, moi quand je suis rentré du Japon, je suis allé voir les villes où on a joué, où les salles ont été reconstruites. Je suis allé voir les vidéos justement du tsunami. Et là, je me suis pris une grande claque dans ma gueule parce que j'ai vu que là, pour le coup, tout a été complètement ravagé par cette putain de vague là. Et il y a le tsunami et ça engendrait un incident nucléaire aussi, où il y a carrément une zone interdite maintenant et tout ça. Mais là, moi, d'aller voir justement comment ça a été détruit et nous, d'avoir joué dans des salles qui ont été reconstruites grâce justement à tout ce mouvement qui s'est créé autour de ça, et ben, ça faisait chaud au cœur et ça faisait chaud au cœur de voir des gens dans les salles, dans un festival avec le sourire aussi et puis danser sur de la musique malgré justement il y avait peut-être des gens qui dansaient là et qui avaient perdu des proches. Émotionnellement, c'était très fort.
Oui, en fait, parce que cette vague, elle a détruit des kilomètres de côte et à un moment, sur ces kilomètres de côte, il y avait une centrale. Donc on a retenu vraiment que les répercussions et l'incident nucléaire, mais la vague aux endroits où il n'y avait pas de centrale, elle a quand même fait beaucoup de dégâts. Et donc oui, on a même rencontré, on a joué avec un gars qui lui habitait dans la zone interdite maintenant, qui non seulement s'est pris la vague, mais en plus habitait à côté de la centrale, et lui il ne retournera jamais de son vivant, il ne retournera pas chez lui parce que le jour où la région sera propre, ça fait longtemps qu'il ne sera plus là. Donc lui, sa maison, elle est détruite et il n'y a aucun projet, aucun espoir de retourner là-bas parce que c'est dans la zone interdite. Donc ouais, on a rencontré des gens qui ont pris la vague dans la gueule et émotionnellement, c'est intense. Et puis ils ont cette façon très particulière de réagir à des grands événements comme ça qui fait que des fois, tu te dis « Waouh, ils sont assez balèzes quand même dans leur tête, même dans le gros problème, même dans la tourmente. »
Garde la face,
ouais, ils sont fiers comme des
Comme des Japonais.
Voilà. Si fier et des Japonais.
Comme plein de gens, je suis jamais allé au Japon. Est-ce qu'ils sont aussi japonais que ce qu'on imagine
encore
nous
plus,
du
plus,
Japon
beaucoup plus japonais que ce que tu crois en fait. Hein. Ouais, et la bouffe aussi.
Un groupe de punk rockers hardcore japonais, eux aussi, ils sont très japonais.
Très japonais. Tous les musiciens sont japonais. Si tu fais du punk rock et que tu es japonais, tu feras du punk rock japonais. C'est vraiment, il y a cette espèce de particularité, d'empreinte qui se retrouve dans tout. C'est une culture à des kilomètres de la nôtre.
C'est une île.
C'est des jeunes,
ils ont des guitares électriques, ouais, des crêtes.
Mais ils sont quand même. Nous, on a cette espèce d'héritage judéo-chrétien qui, des fois, pèse sur nos épaules. Même si on est jeune, qu'on a des guitares et qu'on est punk, et ben eux, ils ont tout cet héritage médiéval de seigneurs, de samouraïs.
Des petits jeunes comme les skippers, qu'ils ont quoi, même pas 30 piges. C'est des gens comme on pourrait les imaginer, courtois, prévenants.
Dans la vie civile, totalement, bien sûr. Très très respectueux, très poli, très.
Jamais un manque de respect, jamais. Et il n'y a jamais un énervement. C'est une honte pour soi-même que de perdre ses moyens. Enfin, tu vois, la hiérarchie est importante, le respect, la politesse, et carrément, c'est que ça tout le temps, la diplomatie, la courtoisie, les courbettes, une courbette appelle une courbette, c'est incroyable. Donc par moments tu te dis waouh, c'est super, mais c'est un peu trop.
Surtout en tant que latin un peu fouteur de merde, qui aime bien gueuler, râler, faire chier le monde.
On ne peut pas s'empêcher de sourire en imaginant des burnings, certes plus des gamins, mais enfin quand même des burnings au Japon.
Oui, non, mais c'est un peu comme Martine à la plage ou Tintin en Congo, c'est les burnings au Japon. Ouais, c'est bizarre.
Vous avez été gentil, poli, courtois, évidemment.
Pas trop compliqué pour nous de nous adapter au pays parce qu'on est déjà un peu comme ça, on essaye d'être comme ça chez nous en fait, on est un peu japonais déjà en France. Ouais.
Et effectivement, là-bas, personne ne va truander une file d'attente. Et si par hasard quelqu'un truande une file d'attente, ça peut être un Français, ou alors si c'est un Asiatique, c'est un Chinois. Donc même pour des jeunes, comme tu dis, qui sont jeunes, qui ont moins de 30 ans, qui ont des guitares et qui font du punk, bah cet héritage japonais, ce poids des traditions, est encore vraiment là. Mais c'est bien, on apprend des choses, on découvre et on a rigolé, on a été des fois un peu étonné, souvent dans le bon sens. Mais voilà,
c'est... On a ému aussi, parce que quand même, on a vu les paysages qui étaient complètement dévastés et on s'en est pas forcément rendu compte tout de suite, parce qu'on voit, on arrive près des côtes, tout est plat. Mais en fait, tout est plat parce que avant il y avait des maisons, avant il y avait des collines, mais la vague, elle a tout aplati en fait. Et quand tu commences à prendre, à relativiser, à rendre compte de ça, c'est chaud quand même. Ce qui leur est arrivé, c'est vraiment énorme.
Je sais pas comment les Français réagiraient par rapport à une catastrophe pareille en fait.
Et eux, il y a une entraide justement qui s'est faite, en tout cas avec les gens du Nord, plus avec les gens du Nord parce qu'eux ont subi la vague. Avec le reste du pays, elle a été tout de suite en 2011, l'entraide s'est faite, et puis maintenant là on y allait en 2016, et les gens du Nord disaient que ils avaient un peu moins, on allait jouer dans le Sud, fallait qu'on leur rappelle que au Nord ils en ont morflé et qu'ils morflent toujours, parce qu'il y a toujours des baraquements, il y a toujours des trucs qui sont pas reconstruits, il y a toujours, c'est un énorme chantier,
c'est un chantier permanent. C'est le paradis du BTP.
Ouais.
Des pelleteuses, des tractopelles et des camions bennes partout.
Pour tout vous dire, et je vous l'ai déjà dit, depuis tout petit déjà, le punk rock, je trouvais ça laid, chiant et bruyant. Et vers la fin du millénaire dernier, la première fois que j'ai vu les Burning Heads en concert, j'ai supporté un vacarme agressif, vraiment très fort, balancé par des mecs tatoués et crâne rasé avec une attitude pour le moins rugueuse. Genre, le punk rock hardcore, c'est pas fait pour rigoler, et les chiens d'Orléans font du bruit de mec qui est pas content vu qu'il habite à Orléans. Enfin bon, c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque. Brutal, mais indéniablement sincère et authentique. Ces mecs-là, je les trouvais pénibles. Mais ça se voyait que c'était des vrais. Alors, des vrais quoi, par contre, je sais pas trop. Et sans capter que toute cette agressivité, ce jeu sur registre hardcore sauce commedia dell'arte, masquait peut-être la pudeur de ces têtes brûlées, tatouées, tondues et vociférantes, mais certainement sensibles.
On s'habitue à tout. Je pense pas qu'on est devenu un peu moins rugueux, je pense que les gens s'habituent à tout. Ce qui paraissait incroyable aujourd'hui devient normal, donc ce qui paraissait rugueux à l'époque devient peut-être un petit peu plus lisse aujourd'hui, ou on s'est habitué au rugueux et il nous choque un peu moins, je sais pas. Nous en tout cas on n'a pas fait d'effort pour se lisser. Si les gens nous considéraient comme rugueux et que ça les déplaisait, on restait rugueux. On donne tout sans filtre. Peut-être c'est une pudeur, mais en même temps c'était un besoin, peut-être c'est toujours un besoin d'être le plus sincère possible.
Ouais, c'est ça, c'est plus de la sincérité aussi. Il n'y a pas de filtre comme idée, c'est direct, c'est brut. Et,
À aucun moment on a réfléchi à une attitude, un costume. En montant sur scène, on ne s'est jamais dit il faudra qu'on fasse ça parce que ça pourrait être comme ça. Non, on monte sur scène, effectivement, des fois, il y a une réaction qui entraîne une réaction, il y a un truc, rien n'est réfléchi.
Les Burning Heads live, toujours au festival au quart de tour 2017, où le groupe a fêté plus de 30 années d'une aventure toujours en cours. Une oreille, ça peut aussi s'éduquer avec une radio comme Bétons et autres radios Ferrarock qui, depuis plus de 30 ans, diffusent des musiques et des sons bizarres de groupes plus ou moins obscurs. Et puis, avec le temps, je me suis mis à apprécier les Burning Heads d'abord par la prestation physique qui va avec. Car un concert des Burning, c'est une performance où la sueur le dispute à la sincérité. Faut dire que c'est suintant. Et puis il m'a fallu des années avant de comprendre que les Burning sont aussi des espèces de hippies qui hurlent à l'amour, mais qu'au lieu de l'exprimer avec des flûtios, des guitares en bois et des cheveux longs, ils le clament, crâne tondu, avec des grosses guitares très électrifiées.
Des bisous, de l'amour. Des bisous, de l'amour. Des bisous, de l'amour. Des bisous, de l'amour.
Ce que j'ai toujours aimé chez les Burning, c'est que ça triche pas. L'authenticité, ça simule pas, ça se vit. Et quand il y en a, ça se voit sur scène. Le cœur et la générosité feront toujours la différence entre des artisans intègres et des trous du cul qui se la jouent avec des postures de rocker à la noix. Les Burning Heads sont donc d'Orléans et depuis le Moyen-Âge, on parle des chiens d'Orléans. L'étouffante et moche Orléans peut être une ville très agréable si on trouve les bons réseaux de gens qui bougent. Et des gens qui s'agitent, il y en a plein à Orléans, tellement justement Orléans, c'est pas bandant. Allure de ville dortoir de la périphérie de Paris, lugubre ambiance béton d'une cité bien rasée par les bombardements de la dernière guerre, peu de quartiers sympas pour sortir, et comme un peu partout, cité glauque tout autour, et une ambiance dans les rues que j'ai parfois trouvé tendue, quand elles ne sont pas vides dès 8h du soir, le tout sur fond des longs automnes-hivers pourris du Loiret, quand c'est pas le dur soleil caniculaire de l'été, climat continental ça s'appelle. Et puis, pour vous donner une idée sociologique, une fois par an, Orléans, c'est aussi les cauchemardesques fêtes joanniques, fêtes de Jeanne d'Arc où toute la ville est bloquée pour un défilé de scouts et de militaires qui viennent se faire applaudir par une vieille bourgeoisie catho-monarchiste qui sent le moisi baladurien. À la tête du défilé, une jeune fille en armure, supposément vierge et si possible sélectionnée dans un lycée privé, incarne la Jeanne d'Arc de l'année. C'est aussi ça, Orléans, une ville qui suinte la vieille droite pourrie. Et on peut donc comprendre qu'à Orléans, il s'y fasse du punk de mecs pas contents parce qu'il y a de quoi.
Pour nous, les fêtes johanniques, c'était pourvu qu'on ait un concert loin de la ville.
C'est clair.
Voilà. Donc les fêtes johanniques, pour nous, ça se passait en Suisse ou en Allemagne ou au bout de à l'autre bout de la France. Donc moins on les voyait, mieux on les vivait, les fêtes johanniques. C'est toutes les villes jumelées avec Orléans qui envoient leurs fanfares, c'est tous les scouts, c'est les bases militaires qui défilent avec leurs avions.
C'est couplé avec le 8 mai, l'armistice 39-45, et du coup il y a des défilés militaires derrière. Enfin bon, ouais.
Donc une espèce de débauche de folklore, d'institutions, de grands trucs vraiment à la française. Donc fanfare militaire, fanfare, groupe folklorique, petite chèvre et scout en armure, grande vierge en armure aussi qui représente la libération de la ville, embrasement de la cathédrale, défilé des provinces. Il y a tout un côté France profonde qui nous a pas toujours super excités et qui nous excite toujours super pas. Et voilà, donc pour nous le rock c'était une façon un peu cool de se barrer de la ville. Et le jour où on n'a pas eu de concert pendant les fêtes johanniques, on a été invité aux contre-fêtes johanniques.
Le problème aussi au niveau de ces fêtes de Jeanne d'Arc, c'est tout l'encadrement policier qu'il y a tout autour. Et du coup, au niveau des contre-fêtes, souvent dans les petits concerts qu'il y a eu, il y a des armées de CRS qui arrivent, qui n'ont rien à voir normalement avec la ville ou avec le...
Alors je vais vous confier une anecdote. Moi j'étais donc animateur 7 ans à France Bleu Orléans. Et il était strictement interdit d'évoquer à l'antenne, cette antenne donc payée avec l'argent du contribuable, parce que c'est une radio de service public en principe, il était strictement interdit d'évoquer de quelque manière que ce soit les contrefaites johanniques sur France Bleu Orléans.
Bon alors on saisit mieux maintenant pourquoi certains ont des raisons d'être pas contents à Orléans et pourquoi dans les années 80 cette ville a engendré de légendaires groupes de punk rock très ténueux comme Comintern Sect ou Reich Orgasm qui vont fonder le label Chaos Productions. Tout un programme.
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Les Crybabies, il y a eu plein de petits groupes punk hardcore aussi pendant un moment. Il y a eu vraiment... un noyau dur de gens qui vivaient la musique du matin au soir à Donf. Voilà. Et donc, les musiques extrêmes ont toujours eu beaucoup, beaucoup de succès à Orléans. Peut-être parce que justement, une action entraîne une réaction et que coincé entre paysans bosserons avec des milliers d'hectares et riches propriétaires soloniaux fans de chasse, peut-être qu'il fallait quelque chose d'un peu rugueux justement pour réagir à cette France bien pensante et établie.
Voilà, la prochaine, ça s'appelle Grey.
On parle aussi de marcher au pas. Une chanson pour tout le monde. Bien fermer sa gueule. Un flic derrière chaque personne.
La France en marche, au pas.
Français, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside.
Quand on va au théâtre ou au concert à Orléans, notamment à la salle de musique actuelle l'Astrolabe, on peut parfois apercevoir un membre des Burning Heads sur scène, non pas en train de jouer, mais en train de pousser des caisses de matériel à faire le rôdi et pas l'artiste.
On est intermittent du spectacle, le groupe ne suffit largement pas suffisant pour nous couvrir le statut.
Effectivement, le théâtre scène nationale, la danse contemporaine, l'Astrolabe, le Zénith, tous ces trucs-là. Mais voilà, ça nous permet de faire quelques heures, de garder les pieds sur terre aussi, de rigoler des fois avec des amis un peu dans la galère. Mais c'est bien, il ne faut pas faire ça tous les jours parce que tu n'as plus de dos. Et vu qu'on garde encore un peu espoir... Et justement, le régime des intermittents nous permet, nous, de ne pas travailler trop et de consacrer beaucoup de temps aux Burning Heads et puis à notre vie familiale et à nos hobbies. Et voilà,
organiser nos journées comme on le veut, entre le groupe, notre famille, voilà.
Et on ne s'est jamais dit on va devenir rocker pour pouvoir avoir les 507 heures et pour pouvoir ne faire que ça, non. Pour nous, ce n'est pas une déchéance et ce n'est pas une punition que d'aller pousser des caisses de temps en temps.
Voilà.
tu fais ce que tu as toujours fait, sauf que t'es payé pour le faire. Depuis que je suis tout petit, je suis dans les concerts, je traîne dans les concerts, je roule des cages, je pousse des caisses, voilà. Et bah maintenant je le fais, et des fois je suis payé pour faire ça. Voilà. Bah c'est cool.
Des fois on charge des camions, mais c'est notre matos. Des fois on charge des camions, c'est pas notre matos.
Les Burning, ça n'a jamais été une entreprise commerciale?
Non, c'est... Les Burning ne doivent pas être le moyen de croûter, de machin, qui nous ferait ensuite prendre des décisions du genre « Ah, ça y est, on n'a pas assez d'heures, il faut refaire une tournée ou il faut refaire un truc. » Non, si on fait un disque, c'est parce qu'on a envie de faire un disque, on va pas faire un disque parce qu'il nous faut à nouveau plein d'heures et pour refaire des concerts.
Si on fait des tournées, c'est pas parce qu'il nous faut des heures, c'est juste parce qu'on a envie de jouer.
Oui.
On va partir en tournée en Espagne, on va pas faire des heures, enfin ça va pas compter dans le cachet intermittent, c'est ouais. Clair qu'on n'aura jamais assez d'argent pour ça, quoi.
Tu donc, fais 30 dates aux États-Unis, tu reviens, t'as un découvert, t'es pas en positif sur ton compte. Et pour Pôle emploi, t'as rien branlé pendant...
On compte sur le groupe pour jouer, on compte pas sur le groupe pour nous faire nos cachets.
Mais quand le cachet est suffisamment important pour pouvoir officialiser et faire des fiches de paye, très bien, on crache pas dessus. Mais voilà.
C'est pareil que pour pousser des caisses.
Voilà.
Quand tu bosses pour un concert bénévole, bah t'es pas payé. Mais quand tu bosses pour un concert où il y a de la thune et que t'es payé, bah voilà, ça te sert pour ton cachet, c'est la même chose.
Puis ouais, nous le travail, on s'en branle, nous, on fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour le lien social, juste pour voir les amis, pour rigoler, parce que voilà, plus on voit des amis, plus on rigole. Et puis des fois, les amis ils sont dans la salle en train de bosser, on va bosser avec eux. Alors voilà, c'est juste le lien social, nous. C'est y a que ça qui nous intéresse.
Breakdown.
Vous êtes toujours avec JB et Mickey, c'est Thomas des Burning Heads qui en 2017 fêtaient leurs 30 ans d'un parcours à suivre. Et le truc marrant, c'est qu'a priori, le punk rocker est plutôt un ado. Mais 30 ans plus tard, quand il n'est pas mort, le punk rocker peut devenir quinquagénaire et parfois même père de famille. Alors ça se danse comment d'être papa punk et vieux?
C'est bien le soir dans l'ivresse et l'énergie et la tension du concert. Le lendemain, tu pleures un peu.
Oui, voilà. Je pleurais une matinée le lendemain, tu pleures deux jours.
Voilà. Tu restes jeune le soir, c'est le lendemain que tu te réveilles et que t'es vieux. Et vu qu'avant on était déjà vieux, bah, ça fait longtemps qu'on se réveille vieux. Mais le soir, on essaye toujours
vieux,
de...
On se réveille vieux plus longtemps.
Voilà. Et puis, ouais, c'est un peu plus dur à récupérer. Mais sinon, non, le plaisir reste intact et dans notre tête, on a encore 15 ans. C'est juste notre corps qui nous rappelle de temps en temps qu'on en a bientôt 50. Pour certains et plus pour d'autres. Mais... Est-ce que c'est bien d'être vieux? On ne sait pas, on n'a pas vu le temps passer. Peut-être qu'un jour on réalisera, mais voilà. On n'a pas vu le temps passer, donc on ne sait pas si on est vieux.
À Orléans, dans les années 2000, il m'est parfois arrivé d'apercevoir un des gars des Burning en vélo dans la rue, suivi de trois petites filles, elles aussi en vélo, comme des canetons suivant leur mère. Et voir un punk rocker crâne rasé tout tatoué jouer les mamans canards, c'est choupinet et super viril. Et de me marrer en imaginant des scènes genre, tu vois, les mômes qui discutent dans la cour de l'école, mon père, moi, il est policier, et ben le mien, il est punk rocker. Or, punk rocker ou pas, les parents sont des parents. Alors quand, depuis plus de 30 ans, on joue une musique qui incarne la rébellion, comment ça se passe quand on est papa et donc éducateur? Et tout burning que vous soyez, est-ce que vos mômes, comme la plupart des ados, vous demandent par exemple de pas les accompagner jusque devant le collège parce que c'est trop la honte, hein, JB?
Bah écoute, non, moi j'ai pas ce problème-là. Ma fille, je la mène toujours au collège à 14 ans.
Je lui porte son sac parce que j'ai pas envie qu'elle se détruise le dos, et je serais pas obligé de le faire, mais vu qu'on est, elle va au collège à pied et que ça la dérange pas du tout, voilà, je l'emmène. Les enfants viennent. Non, ils viennent moins au concert. Quoi. Je leur dis je vais à un concert, vous voulez venir? Oh, non, on va rester là, ok. S'ils veulent venir, ils viennent. S'ils veulent pas, ouais, ils restent à la maison, pas de soucis.
Et un rocker, c'est l'insolence, c'est la rébellion. Comment on concilie ça? Rock'n'roll et parentalité, c'est quand même un super débat.
Et ben, ce qui est vachement bien, c'est que, tu sais, à un moment, les enfants veulent surtout pas faire ce que tu as fait.
Ouais.
Donc si tu leur montres un père rocker, eh ben, au moment de l'adolescence, ils vont choisir plutôt quelque chose de très calme, très cool et très... Voilà, l'autre jour, pour rigoler, j'ai engueulé mon fils parce qu'il ne se rebellait pas assez, parce qu'il n'avait pas encore fugué, parce qu'il n'avait pas vomi dans son lit en rentrant ivre-mort. Et voilà. Et il m'a regardé en me disant « t'es vraiment débile ». Et il s'est remis sur sa console, très sagement. Voilà, il fume pas de pétard, il boit pas, il s'en fout. Ils jouent avec d'autres geeks dans le monde entier. Et voilà.
Ils ont d'autres trucs, d'autres vies. Enfin, voilà. Chacun a sa vie aussi. Quoi. Enfin, ouais. Ta vie, elle se forge comme ça. Elle se forge avec l'éducation de tes parents, mais elle se forge surtout avec les rencontres que tu fais en dehors de la maison. Et voilà, nous, ça nous a amené au parcours qu'on a et à la musique et au punk rock. On donne pas la même éducation à nos enfants que nos parents nous ont donné. Donc bah, ils évoluent différemment aussi. Quoi. T'as un équilibre à trouver et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Enfin, ouais.
Et puis ton fils qui était super mignon, à un moment il devient relou, ouais, il te casse les couilles. Et il est hyper content, pour lui c'est normal de te casser les couilles. Ouais. Et puis bah, à un moment tu croyais qu'il allait suivre un peu ta voie et puis tu t'aperçois qu'il a choisi sa propre voie. Mmh. T'es un peu triste au début puis tu te dis que c'est pas plus mal. Enfin rien n'est calculé. Et comme nous, de toute façon déjà le groupe on le gère un peu en roue libre. Je pense que tous nos parcours familiaux, et on les sait un peu en roue libre aussi. On n'a pas pris des cours de comment éduquer son enfant, on a juste essayé de trouver les bonnes choses si on pouvait les donner. Des fois c'est un peu compliqué, mais bon voilà, on essaye de faire en sorte que ça soit pas quand même du grand n'importe quoi. Mais voilà, peut-être que oui, comme disait JB, on n'a pas donné à nos enfants l'éducation que nos parents nous ont donnée, mais en tout cas on n'a pas réfléchi.
Putain, pas fumer des pétards juste pour se rebeller contre ses parents, c'est quand même beau, quoi.
C'est beau, c'est la classe, hein. C'est la classe. Hein. Fais n'importe quoi, tes enfants seront exemplaires. J'avais un copain qui était dessinateur de BD, qui était super trash, qui était à Orléans dans les grandes années du grand n'importe quoi, où tout le monde faisait la fête avec n'importe quoi. Et ben, sa fille, elle a voulu aller dans une école privée, aller au catéchisme et aller dans des rallyes. Voilà.
Tu dis pas fumer les pétards pour que tes enfants fassent l'inverse de ce que tu fais. Il y a,
oui,
pas que ça.
Rébellion par rapport à tes parents. Quoi.
Ouais, mais il y a pas que ça. Il y a aussi emmener tes enfants dans des soirées, dans des concerts, et tes enfants voient comment les gens se comportent autour de eux et comment toi tu te comportes dans ce truc-là. Et puis ils font bien la part des choses, quoi. Il y a aussi ça, quoi. Ils voient très jeunes ce qui se passe et ils comprennent très jeunes ce qui peut se passer.
Pas, je sais même pas. Des fois, comme dit JB, ils font la part des choses sans même qu'on leur dise. Voilà, t'es à un concert, t'es venu avec tes mômes, tu sais déjà pour toi et pour tes mômes que tu vas pas finir ivre mort en rampant, ouais. Et t'as un pote qui arrive et qui te crache dans la gueule. Ouais. T'es très content de le voir, mais tes enfants ils regardent le mec en disant bah, mon père il a un concert, il est comme ça, le mec il a un concert, il est comme ça.
Qu'est-ce qui se passe, voilà. Pourquoi il est comme ça, tu lui expliques.
Bah, voilà.
Faut pas chercher midi à 14h, quoi. C'est, tu balayes devant ta porte à midi ou à 14h, mais pas les deux, quoi.
En 1998, les Burning Heads sortent leur album Be One With The Flames, et à la fin d'une série de chansons punk rock, cette bouleversante reprise du standard jamaïcain Draw Your Brakes. Énorme claque pour votre serviteur qui va écouter cette chanson en boucle. Et comment des mecs qui d'ordinaire commettent un agressif vacarme de brut peuvent-ils s'approprier un classique du reggae avec autant d'intelligence et de sensibilité ?
C'est un grand classique qui, dans la culture jamaïcaine, a déjà été repris 1000 fois. Et nous, on a en fait repris une version qui avait été reprise. Enfin, on s'est inspiré d'un mec qui s'était inspiré de... Enfin, voilà. Et pour nous, Enfin, on a toujours été très sensibles à la culture jamaïcaine. C'était, pour nous, c'était un, comment dire, c'était se prouver que les Burning pouvaient faire un peu de reggae, montrer aux gens qu'on avait ça aussi dans notre palette musicale qu'on aimait. Et voilà, et on adore le côté culture jamaïcaine qui est un peu comme le blues. Un rythme, une mélodie devient presque dans la culture populaire un truc que tout le monde peut prendre, piller. Certaines fois en Jamaïque, il y a un mec qui sort une musique et il va y avoir 50 chanteurs qui vont chanter de façon différente sur cette même musique. Donc pareil pour les Burning, faire une reprise, et en plus c'est une reprise de reggae, pour nous c'était s'apprivoiser un peu ce truc et se dire qu'on était capable de jouer un peu dans la cour de ces gens-là qu'on écoutait beaucoup. Et à l'époque, notre culture, elle n'était même pas suffisamment large, parce qu'on a pris cette version qui est sur la bande-son de Harder They Come et qui est une version DJ Reggae. C'est-à-dire que le DJ Reggae, c'est le mec qui prend une chanson qui existe déjà, avec déjà des paroles, et qui va rajouter des trucs dessus, qui rechante par-dessus. Même certaines fois, on entend encore le mec qui chante derrière. Donc ça, nous, on a la version de Scotty, qui est une version DJ Reggae, alors que la version de Case & Tex, qui est la version originale, elle est beaucoup plus avec des vrais couplets, des vrais refrains. Et nous, on a repris un truc qui était déjà une espèce de variation. Mais vu que dans le reggae, tout est possible, on n'a pas brisé des codes ou on n'a pas enfreint des règles. Et en plus, il y avait la section cuivre de Aspo, qui est un gros groupe de rocksteady, une formation rocksteady de Bordeaux, qui contre deux Space Cake sont venus faire des...
C'était les anciens de Wet Force. Ouais. Là, il y avait des anciens gars de Wet Force qui jouaient des cuivres dans Wet Force, qu'on avait rencontrés à l'époque, et qui étaient sur Bordeaux et qui sont venus faire les cuivres sur le morceau. Et
ils avaient une super culture reggae. On leur a dit, voilà, draw your breaks, Scotty, stop that train, vous connaissez le riddim, trouvez les arrangements cuivres. Et vu que c'était des pointures, ils sont arrivés, ils ont sorti des super arrangements cuivres qui ont rendu le morceau encore plus cool. Et voilà, et c'était super. Pour nous, ce morceau était cool parce que pour nous, c'était un petit challenge. En plus, il nous a permis de faire jouer des gens, des amis. Ouais, c'était cool. Ça faisait une petite bouffée d'air frais aussi dans ce disque.
Just
L'essai plus que réussi de cette reprise de Draw Your Brakes se confirme en 2001 avec l'album Opposite, à mon avis l'un des plus beaux disques de reggae qui soit, une galette qui m'a énormément accompagné. Les Burning Heads ne sont évidemment pas les premiers punks à faire du reggae, mais avec l'album Opposite, nos punk rockers blancs d'Orléans montrent que ces reggae font partie de leur histoire, d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont. Ils investissent, personnifient et vivent ces morceaux car le reggae fait aussi partie de l'ADN des Burning. Or, cette expérience reggae n'a pas été sans conséquences.
On a pris du plaisir, mais on sentait tous qu'on on s'aventurait sur un terrain qu'on maîtrisait bien moins. Et donc on était encore plus en roue libre parce qu'on ne savait vraiment pas à quoi ça allait ressembler. Ouais. C'est surtout ça. Avant, on envisageait des albums en sachant quand même un petit peu ce qu'on voulait obtenir et ce à quoi ça allait ressembler. Là, c'était le grand flou. C'était une expérience. Et on savait que cette expérience allait être comme un soufflet. Soit très beau, soit complètement plat. Donc voilà, à un moment, ça a fait flipper tout le monde. Et je pense que c'est un peu l'album qui a le plus ébranlé le groupe, nos convictions, tout.
Jean ?
Le groupe déjà, parce qu'à partir de cet album-là, Philippe est parti. Phil, qui jouait la guitare. Enfin, il a été OK pour composer, pour enregistrer. Mais une fois qu'on avait fait l'album et que nous, on voulait jouer ces morceaux-là sur scène, il a dit « Ah non, non, les gars, sans moi. Moi, je joue pas ça sur scène. » Bon, ça et d'autres choses aussi dans le groupe qui ont fait que voilà, ça a poussé aussi. Il n'y a pas que l'album reggae qui l'a poussé à prendre cette décision. Mais ça en fait partie.
Oui, c'est ce résultat absolument inconnu, incertain et non calculé qui, au final, nous a plu. Mais lui, voilà, on allait dans ce grand flou. Et au final, il y en a certains qui ont été contents du résultat de ce grand flou et d'autres qui ont été surpris, mais dans le mauvais sens, en disant « Bah non, je ne suis pas content de ce que j'ai fait, je ne me reconnais pas là-dedans, donc voilà, je quitte le navire. » Nous, on était contents de le faire en sachant vraiment que c'était quand même un peu...
Un peu bancal.
Ouais, on se bousculait et on ne choisissait pas non plus la facilité.
Et qu'on ne savait pas trop comment on allait faire ça sur scène. Ouais. Si on allait pouvoir refaire les morceaux qu'on avait enregistrés. On essaye toujours, quand on enregistre les morceaux, de partir dans l'optique de se dire on va pas rajouter 15 milliards de guitares, on va pas rajouter 15 milliards de trucs parce qu'on pourra jamais rejouer sur scène. Donc on essaie de rester guitare, basse, batterie sans rajouter plus de trucs, un minimum en tout cas.
On a été trois du groupe à vraiment apprécier le résultat et donc nous on était prêts ensuite à l'assumer sur scène et on a tout fait pour, et on a d'ailleurs fait une tournée où on a invité un groupe de dub et un groupe de punk. Donc on prouvait aux gens que notre amour du punk rock n'avait pas disparu, et on prouvait aussi aux gens qu'une autre forme de musique pouvait être aussi dans un esprit punk. Le Punky Reggae Tour avec NRA, Burning Heads et Hightone, pour nous c'était une façon de dire voilà, on s'est lancé dans cette aventure sans savoir à quoi ça allait ressembler, on est content du résultat, il est cohérent, et on va essayer de vous prouver que ça peut aussi l'être pour vous, cohérent. Et au final, effectivement, des gens sceptiques sont arrivés au concert et sont sortis en disant « Bon, c'est vrai que c'est cohérent. »
Déjà, ils sont restés jusqu'à la fin.
Oui.
Et puis, ils ont tapé du pied du début du concert sur NRA jusqu'à la fin sur Hightone. Parce que Hightone, c'est du gros step-a souvent, avec du pied tout le temps. Et
une grosse énergie.
Il y a tout un truc scénique qui se passe aussi. C'est pas juste... il y a des instruments, ils jouent, il y a une batterie. Ça s'éloigne pas vraiment du rock. Visuellement en tout cas, et énergiquement. Donc ça a plu aussi à pas mal de notre public. Pas tout le monde, bien sûr, il y a toujours les réfractaires, mais il y a quand même beaucoup qui ont apprécié ce mixage, ce métissage.
Et nous, c'était vachement important, nous, cet équilibre entre punk et reggae, parce que la musique punk est de toute façon, de par ses fréquences, ses rythmes, son volume, c'est un truc qui est quand même assez fatigant. Au bout d'un moment, ça t'excite les oreilles, c'est des fréquences qui agressent. Puisque le message se veut un peu agressif, la musique est au service du message. Et nous, quand on montait dans le camion, après avoir cette débauche d'agressivité volontaire, on était très contents d'un seul coup d'écouter des fréquences un peu plus graves, sur des morceaux un peu plus longs, avec des espaces où il y avait des silences, où ça respirait. Et quand les gens en concert se sont tapés NRA, puis Burning dans ces phases un peu speed, entrecoupées de reggae, puis ça a terminé la soirée sur Hightone, les gens ont compris aussi que justement, il pouvait y avoir un bel équilibre entre je t'agresse un peu, je te repose, je remplis tout l'espace, je mets du silence. Ce qui nous plaisait, on a réussi à le faire apprécier à d'autres.
Aujourd'hui et tant mieux, mais jusqu'à l'orée des années 90-2000, les publics et les styles musicaux étaient quand même très cloisonnés. Pour caricaturer, les gens qui écoutaient du reggae ne frayaient pas avec les gens qui écoutaient du hard rock. Quelle idée aussi. Jusqu'à l'irruption de cette vague dite fusion, incarnée fin des années 80 par des groupes comme Urban Dance Squad. Mais jusqu'à l'irruption de l'ordinateur qui aura permis tous les métissages musicaux que vous savez, il n'en fallait pas beaucoup aux puristes bornés d'un style pour hurler à la trahison. Comme par exemple quand les Burning ont surpris une part de leur public en jouant avec des gens du reggae, du dub, de la techno, Thomas.
Le public s'est éduqué un peu, mais ouais, en fait, je pense... Alors, effectivement, au début, c'était un peu cloisonné, mais je pense que dans certains moments des grandes périodes de l'alternatif, il y a eu quand même des espèces de mixité entre reggae, ska, salsa avec la mano negra et tous ces ou les satellites. Ils avaient commencé déjà un peu à mixer certains trucs. Mais effectivement, il y a eu des moments, surtout quand tu es très jeune, tu es très content d'appartenir à une tribu et tu n'as surtout pas envie d'appartenir à l'autre tribu. Mais nous, ce qu'on voulait un moment avec les Burning, comme on est avant tout des super amateurs de musique, quelle qu'elle soit, on voulait prouver aux gens que oui, on kiffait le punk rock, oui, c'était notre premier amour, c'était le punk rock, mais qu'un jour, on était tombé dans la marmite de la musique électronique, qu'on avait écouté beaucoup de reggae, et que pour nous, il pouvait y avoir un esprit punk, même dans ces styles de musique différents. Et c'est ce qu'on a toujours cherché à faire, même en faisant un album avec un sound system, avec des tchatchers hip-hop sur de la drum and bass, en faisant, voilà, on a voulu dire, voilà, ce qu'on aime, c'est l'attitude punk. Et l'attitude punk peut se retrouver dans un technival, avec des acteurs de la scène électronique, ou dans un concert de reggae, ou avec du hip-hop engagé, ou voilà. Le côté do it
yourself. Il y a eu ça aussi à la fin des années 90, qui a eu une grosse influence sur les Burning. Enfin, surtout sur Thomas, Pierre, Mikis, et nos sonorisateurs. C'est toute l'ouverture sur la techno. Tout le côté punk de la techno, avec les technivals, avec les free parties, et montrer que les musiques électroniques avaient aussi un potentiel punk et violent et énergique, autant que du punk rock classique, quoi, voire même plus.
Vous le savez, la rencontre historique entre punk et reggae remonte à l'Angleterre des années 70-80, avec par exemple des groupes comme Clash, auxquels les Burning rendent hommage live.
I'm
Leur amour du reggae à nouveau démontré magistralement avec l'album Opposite 2, les Burning Heads cultivent aussi les musiques électroniques, avec notamment le Bass Project, encore une belle production dans la plus pure tradition du DIY, le Do It Yourself, le fais-le toi-même avec des bouts de ficelle, qui est l'une des marques de fabrique des Burning qui ont toujours tout fait à l'huile de coude de leurs bras tatoués JB.
Le Bass Project, c'est 2003, je crois, avec cette espèce d'hybride album métissé avec un sound system, justement un peu drum and bass, où on a mixé Burning et ce sound system, où on a fait un album à 11 musiciens. Une basse, une batterie, deux guitares, un DJ, des machines, deux MC, enfin bon, vraiment un truc, un ovni à part quoi, qui est apparu après une tournée. L'envie de faire l'album est née en tournée. On a rencontré Alex Otsitak, on a fait une espèce d'électro-punk tour avec pour Taranto. Donc, fort de l'expérience qu'on avait eue avec le punk et reggae tour, on s'est dit, quitte à faire des tournées, autant s'entourer de groupes qu'on aime bien et proposer un plateau pour avoir tous les soirs le même plateau, qu'on soit entre copains et qu'on fasse tous les soirs de la musique qui nous plaît. Et puis ça paraît peut-être un peu sectaire, mais en même temps on est quand même sûr de prendre du bon temps avec une bande de potes tous les soirs. Fort de cette expérience là on s'est dit, on va faire une autre tournée sur le prochain album, on va essayer de mixer aussi, et on a pris un logistique de Paris qui font de l'électropunk, Burning Heads, qui proposait un album punk rock un peu fluff qui s'appelait Taranto, et Alif Sound System, un espèce de sound system électro drum and bass du sud-ouest que Thomas avait découvert sur une fête de la musique à Toulouse, du côté de Toulouse. Et on a monté une tournée comme ça, et ça s'est tellement bien passé qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse un album ensemble et qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc on a fait cet album qui s'est appelé Bass Project, B-H-A-S-S, Burning Heads, Alif Sound System. Et on est reparti en tournée avec Alif pour continuer l'expérience. Quoi. What the underground? It's something tells me I'm alive. And if you read in my eyes, you see it's not a lie. This time it's not my time. Donc il y a eu le Bass Project avant Opposite 2. Et avant Opposite 2, il y a eu deux albums punk rock aussi.
Et Opposite 2, c'est parce que Philippe avait composé le Opposite 1, était parti, et Mikis, qui depuis a rejoint le groupe, n'avait pas eu sa part de disque Opposite. Donc on s'est dit, allez, c'est parti. On va voir si on peut aller un peu plus loin. Et puis voilà. Et puis encore une fois, histoire d'alterner les plaisirs, après 2-3 albums punk rock, t'as plus envie peut-être de changer de truc. Et le fait d'avoir fait un album Opposite te donne à nouveau envie de retourner vers tes premières amours, le punk rock. Donc voilà, on varie les plaisirs pour qu'on ait envie de sucrer après le salé, et inversement.
Il a été enregistré dans quelles conditions, comment, le Opposite 2 ?
Chez nous, dans un local. Ouais, super do it yourself.
Avec une aventure do it yourself qui s'est vraiment améliorée au fil du temps. Pierre a toujours adoré pousser des boutons, tourner des boutons, enregistrer depuis tout le temps en fin de compte. Et déjà sur les premiers albums, il faisait des petites maquettes, il s'achetait du matos pour enregistrer et pouvoir avoir des maquettes vraiment écoutables pour qu'on puisse travailler les morceaux avant d'aller en studio. Et puis petit à petit, en s'équipant avec justement l'arrivée des ordinateurs et de toutes les les possibilités d'avoir des home studios, entre guillemets, en tout cas des espèces de studios virtuels dans ton ordinateur où tu vas brancher ta guitare et puis tu vas avoir 15 milliards d'amplis, 15 milliards de watts, 15 milliards de machins, juste à portée de tes doigts. Donc Pierre a toujours été super touche à tout et quand il se lance dans un projet, il se donne à fond dedans. Donc il s'est lancé dans la production musicale, enfin l'enregistrement en tout cas, et il a enregistré quelques groupes, il a enregistré quelques albums et il a enregistré le Bass Project déjà, pas dans son studio mais dans un studio à Orléans. Et puis petit à petit il a acquis le matériel nécessaire pour pouvoir être autonome dans l'enregistrement. Donc tous les albums à partir du Bass Project ont été enregistrés par Pierre. Et le Opposite 2 a été enregistré dans notre local par Pierre et Dudu, dans notre local qui n'était pas encore aménagé et qui était une espèce de grange avec les râteliers à foin et la paille et de la moquette par terre et des champignons sur les murs. Et on a enregistré au mois d'avril. Il a fait froid et très chaud en même temps. C'était vraiment chaud. On est passé de 30 degrés à barbecue, au lendemain neige. Voilà, c'était une bonne expérience quand même, malgré les températures un peu extrêmes.
Vous en êtes content de ce disque, c'est un beau disque.
Mais on est content de la plupart de nos disques, on en est assez content. Ça va, il n'y a pas un truc qui nous fait vraiment mal au cul quand on le réécoute, non.
La reprise de Making Plans for Nigel,
c'est le premier album, et de toute façon je jouais pas dessus, donc c'est pas, j'ai rien à dire là sur ce morceau.
Moi je l'aime bien, tiens, on va l'écouter. Avec JB et Thomas, voilà, Making Plans for Nigel. Moi j'aime beaucoup cette reprise.
Il n'y a quasiment aucun morceau.
JB aime pas.
Il n'y a quasiment aucun des morceaux des Burning, je crois qu'il n'y en a pas, qu'on ne peut pas réécouter. On les réécoute tous, on voit tout à fait les erreurs, elles nous sautent aux yeux, mais en même temps, voilà, ça a permis de progresser, ça fait partie du truc. Hein.
Ah.
Ça commence
oh, ça fait un moment. Et là vous allez voir quoi?
Berry Sarac. Voilà, nos amis du Pays Basque.
Parce qu'on les a pas vus au Pays Basque parce qu'on mangeait et puis là bah on va pas aller manger.
Bon. Les gars, à plus tard.
À plus.
On tremble au même concert.
Ça marche, on devrait se reconnaître.
Bonne soirée, merci.
Et voilà une interview qui se termine en queue de poisson pour cause d'un concert de copains des Burning qui démarre sur le festival. Et effectivement, on s'est tous reconnus les uns les autres pendant le chouette concert plein d'amour que les Burning nous ont offert pour leurs 30 ans d'un parcours qui continue plus que jamais. Et c'est tant mieux. Vive toutes les musiques tant qu'elles sont faites avec cœur et intégrité. Et c'est ici la fin de cette émission que vous pouvez réécouter ainsi que plein d'autres choses sur notre site polymixetlavoixoff.com. On se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Salut.
Terminé. Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Merci à vous. Des bisous, de l'amour. Merci à vous tous, à ce soir.